bateau, mène-moi à Valparaiso. J'en ai assez du parc Monceau, de ses bassins, de ses jets d'eau, de ses enfants exaspérés, traînés dans la suie de l'été. Et se noyer pour se noyer, la mer serait moins étriquée.
Je m'appelle Laura. Je travaille dans une association de lutte contre la pauvreté. Et au moment des mesures de confinement, l'employeur a décidé de mettre tous les salariés en télétravail. Et du coup, moi, j'en ai profité pour me carapater à la campagne et rejoindre mon amoureux.
Moi, c'est Alice. Donc là, aujourd'hui, je suis bénéficiaire de l'ASS, allocation spécifique de solidarité. Puis un an et demi, on crée une structure d'éducation populaire avec un collègue sur Angers. Et là, on était en situation de commencer à voir des interventions et à mettre en place des formations.
Moi, c'est Nico. Au moment de l'annonce des mesures de confinement, j'avais un boulot depuis... 10 jours, un nouveau boulot après une grande longue période de chômage. Je bosse pour Sabeol, coopérative de l'agroalimentaire, qui fait beaucoup de tomates et de fraises sous serre. Donc je bosse depuis début mars. Le confinement il s'est mis en place 2 semaines après, donc ça faisait un peu moins de 2 semaines que j'avais commencé à travailler. Et je continue à travailler, puisque je fais un boulot, on va dire, d'ouvrier, donc manuel. Donc, c'est pas possible de faire du télétravail, par exemple.
Je m'appelle Kevin, je n'avais pas d'emploi. Je suis en projet d'installation pour être paysan. Ouais, mais c'est pas pour tout de suite le temps de mettre en place la ferme et tout. Ce que j'ai de moins, c'est le côté militant avec les copains, les copines, et puis l'organisation, les relations sociales. Après, permis de bricoler, continuer le jardin. Donc, comme je suis à la campagne, ça me permet toujours de sortir. Mon amoureuse, elle est chez moi parce qu'elle est en télétravail. Donc, du coup, c'est un côté chouette de vivre ça ensemble. Et puis après, il y a toujours la sortie hebdomadaire chez les maraîchers de la commune pour aller faire ses courses où il y a la viande, le pain, les œufs, les fruits et tout ça. Donc de ce côté-là, ça ne change rien.
Sur mon mode de vie, ça change quand même pas mal parce que du coup, au lieu d'habiter dans mon appart en centre-ville et d'être tout le temps en mouvement parce que je me déplace vachement habituellement, et là, je suis confinée à la campagne. Et je suis entourée de champs et de vaches, et je vais me balader dans les champs quasiment tous les jours. Donc ça change quand même vachement la donne.
Ma situation financière actuelle ou à venir, elle était, on va dire, loin d'être florissante, mais je m'en fous. Voilà, on peut dire que je suis un travailleur précaire, un prolétaire, mais content. Mais bon, bref. Ça ne change en rien ma situation. De toute façon, je bosse, du coup, j'ai un salaire, le SMIC. Voilà. Alors, par rapport à mon boulot, c'était assez nouveau pour moi, mais en fait, il n'y a pas de grand changement, sauf que si, ils mettent en place les consignes de sécurité, la distanciation, port de masque et de gants. Port de masque, c'est venu qu'aujourd'hui, donc c'est venu presque 2 semaines après le début du confinement. Mais ça change pas grand-chose après dans l'organisation du boulot et dans ce qu'on doit faire. Il n'y a rien qui change vraiment.
En fait, je bosse vachement. J'étais à temps plein et je suis toujours à temps plein et je ne demande pas boulot, notamment parce que mon asso, elle fait partie des assos qui font du caritatif et de l'aide alimentaire d'urgence et ce genre de choses. Et je passe ma vie en visioconférence, au téléphone et à faire des mails. Enfin, ce qui ressemble quand même beaucoup au reste de ma vie, mais là encore plus. Et surtout depuis lundi dernier, mon chef, il a chopé le coronavirus. Et du coup, je le remplace en partie, quoi. J'ai pris son relais, comme ils aiment dire. Donc, c'est comme si j'avais 2 boulots en un, du coup, puisque j'ai mon taf. Et en plus, j'ai le taf de mon chef.
Moi, au moment du confinement, j'étais sous contrôle. Par rapport à mon chômage, donc du coup il est stoppé, contrôlé, donc c'est une pression en moins administrative. Je doute pas qu'il va reprendre après le confinement. Et puis par rapport à ma situation, moi comme je suis en projet d'installation paysanne, je vais continuer à vouloir dans mon processus d'installation.
Quand le confinement a commencé, le 17 mars, j'avais initialement rendez-vous avec un contrôleur Pôle emploi, puisque depuis la réforme qui a été votée en décembre, là, ou novembre, il y a plus de contrôle des demandeurs d'emploi. Et j'ai dû répondre il y a quelque temps à un questionnaire décrivant mes démarches avec des questions très fermées qui montrent bien dans quelle logique il faut rentrer, c'est-à-dire qu'il fallait que je dise exactement combien de candidatures je faisais par semaine, combien j'en avais reçu, combien de réponses j'avais reçues, il fallait que je remplisse un tableau, où est-ce que j'allais chercher l'information, est-ce que j'allais chercher l'information dans mes réseaux professionnels, sur les petites annonces, est-ce que je faisais des formations, est-ce que je savais faire un CV, est-ce que je me faisais aider, enfin voilà, plein de choses très précises qui font que j'ai pas pu répondre moi parce que je rentrais pas dans les dans les questions, puisque ça faisait voilà, un an et demi qu'on crée une structure qui nous a demandé pas mal de démarches administratives. J'avais droit à un entretien avec un contrôleur parce qu'il considérait que c'était un petit peu léger ce que je lui avais indiqué de toutes les démarches qu'on avait faites. Bon, ça montre bien quelle est la logique dominante aujourd'hui concernant les chômeurs, en fait. Le chômeur doit utiliser 35 heures de son temps à rechercher du travail en faisant plein de candidatures, et voilà, sauf que moi je suis assistante sociale et 10 candidatures par jour, là où je suis c'est juste pas possible, il y en a pas en fait, il y a pas de boulot à ce point, et je suis surtout formatrice, et c'est plutôt encore pire, et c'est plutôt un secteur où il faut créer son emploi. Là en fait moi j'ai l'impression d'avoir plutôt été sauvée par le, entre guillemets, par le confinement par rapport à ça, parce que vu que je rentrais pas dans les cases, il était tout à fait probable, que possible en tout cas, que mes droits s'arrêtent avant l'heure. Donc là, je reste dans la configuration que j'avais avant. Et que de toute façon, j'ai des droits jusqu'au mois de mai, et puis après, on verra quoi. Bon, alors le truc c'est que après, il devait y avoir des formations qui devaient commencer. Et là, j'avoue que je sais pas du tout ce que ça va donner, comme tout est en stand-by.
Comme là, ça doit faire 2 semaines et demie. La première semaine, c'était plutôt abattu, quoi. Le temps de s'informer, de regarder, de comprendre la situation. Après, il y a eu 2-3 jours plus difficiles. Et puis depuis, c'est reparti. On s'organise avec des copains et des copines pour essayer de réquisitionner des terres communales ou voir avec des paysans du réseau pour cultiver des champs de mougettes, de patates, pour les personnes qui sont en galère ou qui vont l'être en galère encore plus dans les semaines et mois à venir. On attend pas le déconfinement, on est déjà mobilisé.
Le confinement, ça a été un bouleversement pour l'ensemble de la société, et du coup c'est quand même très vite posé cette question de merde, mais les ultra pauvres qui dépendent des assos, qu'est-ce qu'ils deviennent, quoi, parce que notamment sur les questions d'aide alimentaire, en fait tout a fermé très vite, parce qu'en termes de lieux de contamination, c'était des super lieux de contamination, la distribution de repas collectifs, et donc c'est posé vraiment la question de mais qu'est-ce qu'on fait pour les ultra pauvres, pour les gens à la rue aussi, parce que être confiné quand t'es SDF c'est quand même compliqué. Et donc mon asso, elle a fait partie des assos qui se sont retrouvés en dialogue avec les ministères, vous pouvez pas laisser les gens comme ça, quoi, et il faut agir, il faut faire quelque chose. Et puis aussi à être sur le terrain et à faire des choses. Mais du coup, être sur le terrain tout en respectant les consignes de confinement, ça devient un peu compliqué. Surtout quand t'es dans une asso bénévole, où la plupart des bénévoles, ils ont plus de 70 ans, ce qui est le propre du bénévolat en France, quoi. Et donc avec un truc où en plus moi je suis très engagée syndicalement, et avec un truc assez ambigu de on est dans une boîte qui prétend aider les pauvres, et donc là dans des moments comme ça, ça veut dire aussi être dans la rue, quoi, elle est au contact d'eux, et à la fois en même temps je suis syndiquée et je pense que c'est hyper important que l'employeur il protège les salariés, et donc moi j'ai trouvé ça vachement bien que l'employeur il impose à tout le monde d'être en télétravail. Mais du coup ça donne un truc un peu chelou où les salariés sont en télétravail, donc ils vont pas sur le terrain, Mais par contre, ce serait quand même bien qu'il y ait des bénévoles qui y aillent. Mais du coup, pas n'importe quel bénévole, parce qu'il ne faut pas qu'ils soient à risque. Donc, il faut qu'ils aient moins de 70 ans. Enfin bref, du coup, ça donne un peu une ambiance un peu spéciale dans l'association en ce moment. Et bon, ça soulève pas mal de trucs assez intéressants. Et syndicalement, et plus profondément sur c'est quoi travailler dans le secteur associatif.
Alors, pour mon entreprise, pour l'instant, ça ne change pas grand-chose. Il y a des répercussions hein, sur certains partenaires qui fabriquent du matériel dont on se sert. La répercussion directe aujourd'hui, c'est qu'on se met à fabriquer des trucs qui étaient fabriqués par d'autres. Voilà. Après, je pense qu'il est trop tôt pour voir les conséquences. J'ai l'impression que dans l'agroalimentaire, ça va être plutôt des conséquences, on va dire, positives pour eux, puisque c'est un secteur basique, primordial. Et du coup, je crois qu'en fait, il va avoir un gros besoin de main-d'œuvre, en fait, pour aller travailler dans les champs. Donc peut-être que pour Saveol, ça ne va pas leur porter préjudice, tout ça, quoi.
Là où hier on faisait plutôt de la distribution d'aide alimentaire, aujourd'hui on va distribuer des chèques-services, parce que c'est moins un vecteur de contamination. Et les chèques-services, ça veut dire qu'on donne de l'argent aux pauvres pour qu'ils aillent faire leurs courses comme n'importe qui. Ce que personnellement je trouve un moindre mal. Enfin, j'aimerais bien qu'il n'y ait même pas besoin que ça existe, ce truc-là. Mais quitte à ce qu'il y ait ce genre d'aide, autant que les gens puissent choisir ce qu'ils bouffent, quoi. Et du coup, c'est. Voilà, en soi, moi je trouve que c'est plutôt un mieux. Alors moi, il se trouve que je bosse plus particulièrement sur le public étranger. Et du coup, en ce moment, bah, tout est suspendu. Et donc, en fait, passer la première semaine d'effroi total avec plein de flics partout qui contrôlaient tout le monde, en fait, les centres de rétention, ils se sont vidés. En fait, il y a des consignes gouvernementales qui ont été données pour que les flics arrêtent d'arrêter les gens au motif qu'ils sont sans papier. Et du coup, en fait, on est dans un espèce de temps suspendu, quoi. Où, là, pendant la période de confinement, il n'y a pas de risque, a priori, d'interpellation et d'expulsion hors de France au motif que je suis étranger, quoi. Et en fait, c'est un truc que, on ne pouvait pas tellement espérer en période pré-confinement. Enfin, on pouvait l'espérer, mais je veux dire, c'était assez peu probable avec notre cher gouvernement actuel. Et du coup, là, c'est assez énorme, au final. On a une période comme ça assez surprenante. C'est pareil sur au-delà des étrangers, mais sur le côté la trêve hivernale qui est prolongée. Et du coup, les places d'hébergement d'urgence d'hiver, qui d'habitude, traditionnellement, au printemps, ferment, et donc avec encore plus de monde à la rue, là, on a tout maintenu. Et voire même, l'État a réussi à trouver des logements en plus, quoi. Voire même à réquisitionner des hôtels de touristes pour mettre des pauvres dedans, quoi. Donc des trucs qui sont, en fait, qu'on sait très bien que... Enfin, c'est ce qu'on prône le reste du temps, quoi. Et là, dans une période comme ça, du coup, il y a des choses assez surprenantes qui émergent. Il y a aussi un truc assez intéressant, là, c'est que en fait, il y a tout un tas d'administrations, de pouvoirs publics, quoi, qui débloquent des fonds pour soutenir les gens dans la merde, quoi. Que ce soit la CAF, la région, le conseil départemental et le fonds social pour le logement, enfin... Et alors, c'est en période de confinement, et je me leurre pas du tout sur le fait que tout ça est très temporaire, mais je trouve quand même que c'est super intéressant de ce que ça dit. Enfin, d'habitude, c'est les assos qui pallient, enfin, qui font à la place de l'État, mais avec moins de moyens, hein, parce qu'on n'est pas l'État. Et là, dans un moment comme ça, l'État trouve l'argent, quoi. Et du coup, ce que je trouve potentiellement assez cynique, c'est que potentiellement, je me dis que mon asso, elle va particulièrement bien s'en sortir. Parce que, par exemple, on a fait un... Enfin, quand je dis « on », c'est mon employeur, quoi. Enfin, c'est le service communication de l'association dans laquelle je bosse, qui a lancé un gros appel à dons là, pour la distribution de chèques-services. Et on a obtenu autant de dons que ce que nous coûte cette action en super peu de temps par Internet. Enfin, un truc du jamais vu dans l'asso, quoi. Pas du jamais vu, mais du très rarement vu. Et du coup, c'est vachement intéressant parce que, en fait, potentiellement, financièrement, on va bien s'en tirer. Parce que ce serait pas étonnant qu'on aille demander un peu de sous à l'État pour tout ce qu'on est en train de faire en ce moment et que l'État nous paye pour tous les services qu'on lui rend en ce moment parce que, mine de rien, on contribue à assurer un minimum de filet social, ou je sais même pas comment appeler ça, mais parce que malgré tout, il y a quand même des gens encore à la rue, où il y a quand même plein de gens qui sont hébergés dans des conditions hyper discutable. Et donc, il faut bien quand même assurer la distribution de chèques services. Il y a quand même encore des colis alimentaires. Et puis, il faut aussi penser à tout ce qui est toilettes et douches. Parce que, et ça, potentiellement, c'est les assos qui le font, quoi.
Est-ce que tu penses que ton emploi participe à la transformation sociale ?
Ah bah non, pas du tout. Tout ce que je suis en train de décrire, c'est tout l'inverse. Enfin, après, alors, mon emploi tel que c'est écrit sur le papier, je pense qu'il contribue pas du tout à la transformation sociale. Au contraire, il contribue à maintenir l'ordre établi. Après, j'ai l'immense prétention de penser que la manière dont moi je mène mon emploi, je sème des graines et j'espère de cette manière-là participer, contribuer à la transformation sociale en essayant de faire un peu prendre conscience de certains trucs, faire bouger des lignes et tout ça. Et puis par ailleurs, j'ai un gros engagement syndical. Et là, du coup, sur ce terrain-là, là, j'estime que je suis dans un syndicat de transformation sociale. Je suis au syndicat ASSO, qui est affilié à Solidaire. Et du coup, par cette action-là, là, pour le coup, je prétends faire de la transformation sociale. Enfin, en toute modestie quand même. Mais...
Te donne-t-on des missions qui n'ont pas de sens? Et si oui, lesquelles?
Du coup, en temps normal, je dirais oui. Et là, pour le coup, en période coronavirus, confinement, tout ça, mon asso fait partie de ces structures à qui, manifestement, l'urgence fait du bien. Parce que je trouve qu'il y a plein de process, plein de trucs internes qui me faisaient bien chier, qui se sont hyper fluidifiés avec le côté exceptionnel du moment qu'on est en train de vivre. Et du coup, je prétendrai pas que tout ce que je fais est ultra utile, mais je me trouve moins inutile qu'à d'autres moments.
Par rapport à ce qui se passe en ce moment, j'accompagne mes enfants dans leurs devoirs, j'accompagne mes enfants dans ce qui se vit, dans ce qu'on vit tous autant qu'on est. Je leur fais à manger en espérant le faire le plus équilibré possible avec ce que j'ai pour qu'ils soient en bonne santé physique et morale. Si ce confinement pouvait aussi rendre visible enfin toutes les tâches domestiques comme utiles socialement, ça serait chouette.
On a un apéro visio avec les copines tous les jours là, et notamment avec toutes les copines qui sont confinées toutes seules. Et je trouve que ça a du sens dans des moments comme ça de faire équipe et se tirer les coudes. Bon, en l'occurrence, en plus, on se marre beaucoup et c'est pas du tout des gens qui sont dans la merde, ni matériel ni psychologique, donc du coup, en fait, on se marre bien, quoi. Et puis après, du coup, le fait d'être confiné avec mon amoureux, ça fait que on parle encore plus de tous nos sujets militants qui nous unissent, notamment autour des tests de réseau salariat, autour de la sécurité sociale, de l'alimentation. Et aussi, un des grands sujets du moment que je partage avec les copines militantes engagées, et notamment les copines de Réseau Salariat, c'est tout ce qui concerne la question de en quoi cette période de confinement révèle la place des femmes dans la société.
Est-ce que tu dirais que ces activités, c'est du travail ? Et pourquoi ?
Oui, je dirais que c'est du travail, parce que je suis à Réseau Salariat et que j'ai compris que tout est travail. au-delà de ça, c'est aussi, alors pour le coup, moi qui travaille au sens mon emploi, qui suis employée dans une association pleine de bénévoles et qui en fait depuis très longtemps bosse dans ce secteur là, j'ai largement touché du doigt à quel point la frontière entre emploi et travail est fine, parce que en fait, c'est quand même une sacrée blague tout ça de dire « Ah bah à tel moment, je suis payée pour le faire ». C'est-à-dire, par exemple, l'essentiel de ma journée de travail, de ma journée d'emploi, consiste à faire des réunions, prendre des notes, faire des ordres du jour, faire des comptes rendus, faire des suivis de réunions. Bon bah en fait, dans mon engagement militant, qu'il soit syndical ou à Réseau Salariat ou ailleurs, l'essentiel de mon militantisme consiste à faire des réunions, faire des ordres du jour, prendre des notes et faire du suivi de réunion. Non, j'espère que c'est pas que ça, mais quand même un peu beaucoup, quoi. Du coup, finalement, il y a un endroit où je suis payée pour le faire et l'autre pas, quoi. Mais...
celle qui a le plus de sens, c'est tout le travail autour de la sécurité sociale, de l'alimentation et de comment continuer en cette période de confinement. Et continuer à plusieurs niveaux, dont celle dont j'ai évoqué là, avec l'idée de de faire ces terrains communaux et puis de faire des groupes sur chaque commune et qui pourraient être à terme les futures caisses locales qui gèrent la sécurité sociale de l'alimentation, quoi.
Est-ce que tu dirais qu'il s'agit d'un travail et pourquoi ?
Ah bah oui, c'est un travail vu les nombres de coups de fil, de temps, de pensées dans la nuit, etc. Si ça c'est pas un travail, moi il faut m'expliquer ce que c'est le travail.
En termes d'activité, on va dire sociale, collective, je fais de la radio à Radio Piquet. Et pour moi, ça a un sens, hein, puisqu'on essaye de déconstruire le discours dominant. On essaye de faire de l'éducation populaire à notre échelle. Pas assez, je trouve, mais bon, c'est déjà pas mal. On essaye de s'interroger sur le monde et de se remettre déjà, nous, en question. C'est une forme de travail qui, à la fois, me passionne et me nourrit, et c'est un engagement, on va dire, une espèce d'engagement politique, voilà.
Oh ma folie, mon beau flacon, donne-moi d'étranges poisons, j'en ai assez du pastillon, et des litrons, et des graillons, et des serveuses de café qui attendent d'être mangées. Et s'assommer pour s'assommer, il vaut mieux être foudroyé.
L'ironie du sort, quand même, c'est que la situation actuelle, elle est directement reliée à un certain nombre de délocalisations qu'il y a pu y avoir. Enfin, j'habite à Saint-Barthélemy d'Anjou et Macron est venu hier visiter une entreprise qui fabrique des masques à Saint-Barth. Et il a fait tout un discours pour encourager la production massive de masques, le fait qu'on a doublé la productivité, et qu'il va falloir encore faire un effort pour soutenir, et bravo, bravo aux ouvrières, bravo aux ouvriers, merci beaucoup pour ce que vous faites et pour ce que vous allez faire, de vous tuer sang et eau, grâce au fait en plus que nous avons... démonter le code du travail, vous allez pouvoir en faire vachement plus, c'est super, bravo, vous êtes des héros. Mais attends, c'est maintenant qui remercie les ouvriers, quoi, alors que en général, on est, enfin, il y a plutôt une logique très méprisante vis-à-vis des agents de production. Qui sont payés au lance-pierre, qui sont considérés systématiquement comme un coût, qui sont les premiers sur les strapontins et les charrettes de plans sociaux. Et je lisais d'ailleurs un grand titre aujourd'hui indiquant qu'il y avait justement une boîte qui fabriquait des masques à Vannes qui a été fermée il y a quelques années. Et donc, il y a fait des chômeurs. Enfin, pour des localisations, enfin voilà, pour des considérations financières exclusivement, et certainement pas. Donc, je trouve le discours sacrément indécent, et je pense qu'il faudra sûrement être très attentif et particulièrement exigeant, voire impitoyable sur la manière dont nous serons tous traités encore par la suite, quoi. En fait, là, je trouve que ça suffit. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ça a été dit et redit depuis un an et demi de manif entre les gilets jaunes et tous les combats contre la réforme des retraites. Et ça a été réprimé à coups de trique, à coups de flashball et de gaz lacrymo, quoi. Non. Là, c'est juste pas possible qu'on continue qu'on continue comme ça, quoi. Voire pire. Hein. Non. En fait, maintenant, c'est nous qu'il faut écouter, quoi. Ça suffit le truc.
Tout ce qui se passe en ce moment et les décisions gouvernementales qui sont prises, elles tournent énormément autour de comment, à tout prix, permettre à l'économie capitaliste de survivre.
Les urgences, elles sont sociales et puis je dirais démocratique dans le sens de qui décide de quoi, quoi. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le système de là où il nous emmène dans le mur, quoi. Et donc, en tout cas, pour ma part, il y a une grosse colère que je suis plus en capacité d'entendre, que ce soit Macron, Philippe, les députés ou autres, là, d'En Marche ou autres. Voilà, je veux plus les entendre, quoi, en fait. Donc, ça, c'est une chose. Mais bon, du coup, comment est-ce qu'on transforme ça hein? Eh ben, c'est de s'organiser entre habitants, entre voisins, voisines, et puis après, à plus grande échelle par la suite. Mais pour qu'on soit capable et se préparer, en fait, à nous décider de ce qu'on veut, quoi.
Et du coup, réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on aimerait comme haute société qui soit bonne pour nous. Et bon, il me semble qu'à Réseau Salariat, on a deux, trois pistes assez intéressantes autour de la question du salaire à vie, autour de la question d'être propriétaire d'usage des entreprises dans lesquelles et associations, enfin des structures dans lesquelles on travaille, et du coup d'avoir la main sur les prises de décision, quoi.
Donc j'avoue que je sais pas comment militer, en fait. De manière prosélyte, c'est pas possible. Puis bon, voilà, on peut pas obliger les gens à penser comme nous. C'est pas la question. Puis c'est pas la question, en fait. Pour moi, c'est pas ça. J'ai plutôt envie d'amener. Je sais pas pourquoi militer. Ça fait partie de la vie, en fait, pour moi, de s'interroger, de participer à ce qu'on vit. Donc je sais pas si c'est vraiment militer, en fait. Hein. Quelles urgences, enfin, c'est vivre, en fait, peut-être, bref.
La plus grande conséquence pour moi, c'est quand même le grand changement au niveau de la société, en fait, avec un discours massif du gouvernement, des autorités politiques, on va dire, sur le fait de rester chez soi, de faire attention... Voilà, donc c'est une gestion, on va dire, militaire de la chose, avec un discours « nous sommes en guerre », etc. Donc c'est assez... en fait, on pourrait se dire qu'ils agissent pour notre bien, ils sont sérieux, etc. Mais en fait, plus largement, si on revient en arrière... Sur comment fonctionne la politique gouvernementale depuis des années, on se dit que en fait, de crise en crise, c'est la remise en question de toutes les solidarités, de libertés fondamentales, liberté de manifestation, par exemple, qui est bien attaquée, et de tous les droits sociaux acquis. Donc là, j'ai l'impression que... On verra, hein. C'est trop tôt pour tirer des conséquences de cette situation. Mais en fait, ça ne va pas vers un progrès social. Quand on vit dans une société qui est en train de se défaire, en fait, de notre vivant, quoi. Une espèce de non-société, en fait. Une société... complètement ravagé par les égoïsmes et les peurs et les intérêts financiers, voilà, on va dire ça comme ça.
Un des trucs qui me sidère complètement, c'est qu'on est quand même tous enfermés chez nous, quoi, et enfin chez nous quand on en a un, et que on accepte ça avec une passivité qui est hallucinante. Et je dis bien on, hein, je me mets dedans, hein, je trouve ça complètement dingue, quoi. C'est complètement flippant. Après, bien sûr, c'est pour des raisons sanitaires, mais c'est, enfin, pour en plus avoir, enfin, être très soucieuse de cette question de l'enfermement et voilà, et de soit sur les prisons, les centres de rétention et tout. Enfin, je trouve ça complètement dingue qu'on soit aussi passif face à des mesures ultra liberticides qui nous enferment chez nous, quoi. Et qui sont quand même sacrément discutables, me semble-t-il. Enfin, voilà.
En fait, militer collectivement, s'engager collectivement, bah alors bon, c'est ça qu'il faudrait faire. Mais là, pourquoi, comment, je sais pas. En fait, moi, j'ai l'impression que là, il faut déjà commencer à aller à la rencontre des gens Justement, en fait, si on extrapole ce qui se passe avec le confinement, là, on pourrait dire que c'est le régime rêvé d'une dictature, puisque les gens ne se voient plus, ne se rencontrent plus. Et du coup, bah, les engagements et les engagements politiques de toutes sortes, bah, ils sont plus possibles, par définition. Donc, rien de plus. Ouais, c'est le rêve, hein, pour un système autoritaire, on va dire. Mais après, au-delà de tout ce bordel, quoi, moi, j'ai l'impression que la question là, c'est. J'ai l'impression qu'on vit dans un monde qui se transforme en non-monde. Le contraire de monde, c'est immonde. C'est assez affolant, comment en quelques semaines, là, on en arrive à des mesures qui sont prises dans différents pays. J'ai lu un article dans le Monde Diplo. L'État polonais a mis en place une application par téléphone qui permet en fait aux services de police de vérifier si les gens sont bien chez eux. Donc de contrôler s'ils sont bien chez eux, s'ils ne sont pas sortis et s'ils respectent bien les consignes de confinement. Quoi, c'est complètement dingue. C'est presque 1984, quoi, le livre d'Orwell qui se déroule devant nous, là. Donc après, plus généralement, en fait, on assiste peut-être à un truc beaucoup plus profond, qui est, comment dire, une transformation pas du tout émancipatrice de la société, mais une transformation fascisme doux, quoi, un fascisme soft, mais peut-être pire que ce qu'on a connu, qui fait que en fait les êtres humains s'adaptent à une vie inhumaine, quoi, une vie complètement immonde, je veux dire. La catastrophe sanitaire, elle a quand même dû en grande partie en France et dans d'autres pays à ce que les capacités de santé publique ont été complètement cassées en fait depuis des années, détruites, quoi. Ils sont devenus quoi, la santé est devenue est rentrée dans le régime de la marchandisation, quoi. Faut que ce soit rentable. Et là, prochainement, bah, on va s'attaquer à l'éducation, on va s'attaquer à l'enseignement, à la recherche, quoi. C'est déjà en cours, en fait. Du coup, tout est mesuré à l'aune du rendement financier, quoi. Et la prochaine étape, c'est quoi? C'est faire un classement des êtres humains eux-mêmes, les classer sur ce qu'ils pourraient rapporter, ce qu'ils rapportent, etc. Du coup, on pourrait se dire que c'est une société complètement inhumaine, quoi, qui est en train de se mettre en place. Donc, voilà. Alors, bon, ça paraît complètement noir ce que je dis, mais moi, je me dis. Ben en fait, il y a des gens, y a des gens encore intelligents et qui se bougent. J'ai pas de conseils à donner, sauf qu'il faut continuer à se parler, quoi, et à rencontrer les gens, et à se rencontrer encore plus, et même les gens qu'on voit pas, quoi. Les gens avec qui souvent on n'est pas d'accord et qu'on a classé comme des gens trop bêtes, ou en fait on est nous-mêmes ignorants en fait de ce qu'ils vivent. Alors je pense à qui en fait? Je pense à, bah voilà, je pense aux pauvres gens qui vivent dans les cités actuellement. Bah en fait moi personnellement j'en connais très très peu qui vivent dans des cités. Bah faudrait aller se rencontrer, quoi, faudrait se parler, faire des trucs ensemble. Ça va être difficile, je pense, dans certains cas, de juste parler et de se comprendre. Voilà, à tous les gens qui sont complètement oubliés en fait dans le cours du monde tel qu'il est, quoi. Ouais, les gens qui vivent dans les cités, les gens qui sont dans des petits villages perdus qu'on n'entend jamais, les personnes âgées dans les maisons de retraite, que bon, bah, voilà, on les met de côté, on. C'est oublié. Et tous les gens qui font des boulots essentiels aussi et qui sont jamais dont on parle jamais. Et puis là, tout d'un coup, là, il y a un truc de fou qui se passe avec les soignants. Mais je veux dire, ça fait 15-20 ans en fait qu'on détruit, pour prendre l'exemple de l'hôpital public, qu'on le détruit. Bon, bah là, les gens, ils applaudissent à 20h. Mais je sais pas, qu'est-ce que vous avez fait pendant 15-20 ans, en fait, pour la santé, quoi, publique ?
Je trouve que cette période, elle a quelque chose de très vertigineux. Et j'emploie le mot vertigineux dans un sens ultra positif comme négatif, quoi. J'aime l'idée de... Ouais, peut-être que là, on est au début du commencement d'une ère nouvelle, ou du coup, donc, à la fin de ce putain de société aliénante, discriminante, inégalitaire. Et que, voilà, et que c'est les moments qu'on est en train de vivre là, ils nous aident à prendre conscience que ça peut pas continuer comme ça. Donc, j'ai envie de croire ça très fort. Et du coup, ça a un côté vertigineux de « Waouh, ça y est, on y est presque, on y va ». Et puis, bah, vertigineux parce que je vois bien aussi que, bon, il y a quand même aussi d'autres choses qui se dessinent, comme bah, voilà, la privation totale de nos libertés, le retour à encore plus d'exploitation et encore plus de misère sociale. Donc, voilà. Mais, donc, c'est vertigineux. Mais bon, on va se dire que c'est pour le meilleur tout ce qu'on est en train de vivre là. C'est quand même plus rassurant. Et qu'un jour, peut-être qu'on dira merci au coronavirus.
Oh, ma folie, ma belle fièvre, mène-moi sur d'affreuses grèves. J'en ai assez des rues de Sèvres, où les vieillards doucement crèvent. Dans l'indifférence et l'ennui, comme si ça n'était pas leur vie. Et se flinguer pour se flinguer, j'aime mieux les pestiférer.
Période actuelle, elle me fait vachement penser au bouquin d'Alain Damasio, La zone du dehors, où c'est un bouquin d'anticipation, je crois qu'on dit. Du coup, c'est pas vraiment de la science-fiction, parce que ça se passe dans un futur proche, mais c'est quand même un peu de la science-fiction. Et il décrit une société horrible, qui est en fait une espèce de dictature douce, tout est aseptisé, et où en fait, on est complètement privé de nos libertés, au nom d'un supposé confort de vie. Bon, je vais pas raconter le bouquin, mais parce qu'heureusement, il n'y a pas que ça dans le bouquin. Mais il y a aussi tout un tas de gens qui résistent. Mais je trouve que la période qu'on est en train de vivre préfigure à fond ça, quoi.
Bah, moi, là, je suis en train de lire La sécurité, les vautours et moi. Je trompe pas mal. Il y a 2-3 trucs voilà, à revoir. Mais voilà ce que je suis en train de lire. Après, il y a aussi... j'ai perdu son auteur de... Agir ici et maintenant sur la pensée de Murray Bookchin. Et voilà, sur le communisme libertaire et le communalisme. Quoi.
Je conseillerais bien la grande transformation de Karl Polanyi, qui justement s'était interrogé sur les liens entre le contexte économique et la montée des fascismes, en fait, au début du XXe siècle. Et il a mis en avant justement le lien entre l'économique et le social, quoi. Que dans une société, enfin voilà, les deux sont liés, et qu'une organisation économique appelle une organisation sociale entre qui produit et comment les richesses sont réparties et redistribuées, ou est-ce qu'elles sont redistribuées et réparties, enfin voilà, comment ça se passe, est-ce que c'est centralisé, est-ce que c'est repartagé, enfin, et il s'appuie sur des études ethnologiques et sociologiques, non, c'est très intéressant. La grande transformation est sacrément d'actualité, il me semble. Un autre livre qui est celui de Barbara Stiegler qui s'appelle Il faut s'adapter, qui me semble sacrément éclairant sur la logique actuelle d'une élite experte guidant le peuple qui ne sait rien et qui est toujours en retard. Voilà, je trouve qu'on est complètement dedans. Elle décortique la pensée de Lippmann, qui était un néolibéral influent au début du XXe aussi. Et si c'est un peu ardu à lire, elle est aussi en interview sur Thinkerview. Et pour une fois qu'il y a une femme d'invitée, ça peut être intéressant d'aller y voir. Il y a une série qui est passée sur Arte, que j'ai vue il y a peu de temps, je ne sais pas si elle est encore accessible, c'est la série Bad Banks, justement sur le monde de la finance, et les liens avec les actionnaires, et toute la logique dans laquelle ils sont. et dans laquelle ils emmènent le monde avec eux, quoi. Et c'est très éclairant aussi sur leur folie, en fait, et les conséquences sur le monde entier. Et j'avais pensé, ah oui, à Miguel Benassayad. Alors lui, Miguel Benassayad, bon, je pense qu'on peut aller voir un peu tout, enfin, faut fouiller, il y a plein de vidéos sur Internet et des bouquins aussi. Moi, je le trouve très très intéressant sur la place des sciences, le lien avec la mort la place de la technologie et du numérique. Hein, voilà, il interroge vachement ça sur cette fuite de la mort qui fait qu'on développe de plus en plus de technologies qui permettraient de prolonger notre vie après notre mort. Enfin bref. Et pareil, hein, je trouve ça très éclairant par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, en fait, où là, c'est la technologie et la science qui vont nous sauver, et cette peur complètement hallucinante qui fait qu'on met une artillerie de dingue face à ce virus. Voilà. À bientôt. Merci.
Cancer, recouvre-moi de fleurs de fer, de l'atelier de Lucifer. J'en ai assez des infirmières, de cette fondation Curie qui est le monde d'aujourd'hui. Et être cuit pour être cuit, il vaut mieux que ce soit joli.